y a des patrons de gauche. Je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo.
Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients.
Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Canu, il est l'heure du Canu Info. Nous sommes le jeudi 25 juin, si je ne me trompe pas. Alors ce soir, nous aurons d'abord des invités, mais je vais vous parler de ce qui va suivre pour commencer. Nous ferons un petit tour de l'actualité en Israël et Palestine. Nous parlerons beaucoup de capitalisme ce soir. Nous parlerons évidemment de la guerre de la semaine dans les télécoms. On parlera de Servier et puis on parlera d'Uber, hein, ça aussi c'est dans l'actu, et d'Amazon. On parlera en fait des nouveaux modèles économiques et des nouveaux modèles pour travailler. On parlera de Monsieur Sarkozy et de Madame Fontenoy. Oui, on parlera un petit peu d'écologie. Enfin, il paraît, hein. On parlera du drapeau confédéré. Vous savez qu'il est dans l'actualité, lui aussi, aux États-Unis d'Amérique. On parlera des quotas avec l'asile. On parlera du nucléaire. Et puis peut-être que nous aurons le temps de parler aussi un peu de littérature. Mais tout de suite, nous allons commencer avec nos invités, puisque ce soir, nous accueillons trois syndicalistes CGT de la métropole de Lyon. Alors, le titre exact, peut-être que Didier, Agnès et Laurence, peut-être que l'un de vous trois peut me dire exactement ce qui me semble que c'est un petit peu plus long.
C'est le syndicat CGT des personnels du département à la métropole.
Voilà, donc on dira CGT Métropole de Lyon, si vous voulez bien, parfois pour faire court. Alors on vous rappelle que depuis le 1er janvier, cran d'innovation, nous avons donc cette métropole de Lyon, hein, c'est récent. Pourtant ça fait déjà des mois qu'on en parle, on se demande comment ça va se passer. On vous rappelle que tout ça, c'est l'affaire de Monsieur Mercier, de Monsieur Collomb, l'un étant président du Conseil Général du Rhône à l'époque, et de Monsieur Collomb, donc président du Grand Lyon, qui se sont donc associés main dans la main pour créer cette métropole. Comme quoi, des fois, on peut devenir amis. Hein. Bon, il était peut-être un peu déjà avant, mais là ils se sont quand même bien associés et donc on a cette création. Alors si on a souhaité un petit peu vous accueillir ce soir, c'est parce que il y a eu plusieurs mouvements de grève, il y a eu aussi pas mal de mobilisations, il y a eu des tracts, on sent que tout ça c'est pas facile, et puis je pense que même pour nous, habitants de cette métropole de Lyon, en fait on s'est pas trop intéressé à l'affaire. Je pense même qu'on s'est pas trop intéressé à nos nouveaux droits, nos nouvelles obligations, mais parce qu'on n'a pas encore bien compris l'impact de tout ça, et l'impact, on va bien finir par se le prendre, hein, il faut bien se le dire. Alors le premier impact, bah, c'est déjà ceux et celles qui travaillent à la métropole de Lyon maintenant. Alors, comment ça s'est passé il y a déjà quelques mois, tout ça, c'est, comment ça s'est passé quand ça a été annoncé et qu'on a su que ça allait être définitif?
Alors nous, on a appris, comme l'ensemble des Lyonnais, la création de la métropole de Lyon par voie de presse, hein, puisque c'est une conférence de presse suite à la venue de Monsieur Hollande, qui a précédé l'annonce de la métropole de Lyon. Donc Monsieur Collomb et Monsieur Mercier ont annoncé par voie de presse qu'ils allaient fonder une métropole qui serait créée au 1er janvier 2015. Alors, ce qui est très extraordinaire à Lyon, c'est que le fait a précédé la loi. C'est-à-dire qu'il y a eu l'annonce dans la presse, et ensuite, il y a eu la création de la loi. Donc la métropole existe depuis le 1er janvier 2015. Elle regroupe une partie des salariés de l'ex-département du Rhône et les agents du Grand Lyon Courlis.
Ça fait quoi, 8700 personnes? Moi, c'est le chiffre que j'ai récupéré, c'est à peu près dans ces eaux-là maintenant?
C'est à peu près dans ces eaux-là. En fait, les eaux sont un peu tumultueuses et vaseuses, puisque même le directeur ressources du Grand Lyon, la métropole, a du mal à nous donner un chiffre précis.
Alors, dans les faits, concrètement, comment ça s'est passé pour vous? Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, on avait l'air un petit peu quand même de sentir que c'était pas très clair, qu'il y avait peut-être des agents qui n'avaient pas de bureau, pas de poste. Ça, c'est des choses qui ont évolué, mais ça a été une grande inquiétude au départ quand même, ça, non?
Oui, il y a eu une passerelle emploi qui s'est déroulée donc au cours de l'été 2014. Puisque, alors il y avait des services centraux, c'était essentiellement les services centraux, où les gens savaient pas trop où ils allaient aller. Ils ont postulé sur leur poste ou sur d'autres postes, puisque c'était une bourse à l'emploi. On sait pas du tout comment... Il y a eu une opacité au niveau des choix. Il y a eu des gens donc qui sont restés effectivement sur le carreau. Sinon, pour ceux qui travaillaient en MDR, donc sur le secteur de la métropole, on était automatiquement transférés donc à la métropole. Et puis il y avait les secteurs, les territoires mixtes, par exemple Givors.
Dessine-Mézieux, Limonest.
Voilà, où il y a eu des découpages encore au sein des équipes.
Mais ça veut dire que, concrètement, là, on rappellera à nos auditeurs et nos auditrices que dans les collectivités territoriales, dans cette fonction publique, il y a des catégories ABC, que certains ne rentrent pas dans ces catégories, les contractuels, les vacataires, enfin bon, on a toujours ces doubles emplois. Mais ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui était sur une certaine activité, une certaine catégorie, a eu des problèmes à conserver le même échelon, le même grade pour renvoyer à du secteur privé?
Alors ça a été un peu plus compliqué, parce que déjà ce qu'il faut dire, c'est qu'on était dans un cadre de dispositif imposé, hein, les agents n'ont pas eu le choix, ils n'ont pas été prioritaires sur leur poste. Et en fait, vous pouviez avoir dans un même bureau quatre agents qui avaient la même fonction. Et en fait, la passerelle emploi auquel ils ont pu accéder a été faite en totale opacité. C'est-à-dire que les représentants du personnel n'ont pas été consultés. Et ce sont des cabinets privés, des consultants qui ont été grassement payés pour calculer ces passerelles emploi sous la base d'algorithmes mathématiques. Donc en fait, chaque agent a reçu un email qui le renvoyait à un lien internet personnalisé qui lui ouvrait droit à postuler à un certain nombre de postes. Selon la personne, il n'avait pas accès au même poste, alors qu'il faisait la même fonction dans un même bureau. Ainsi, un commis de cuisine s'est vu proposer un poste de comptable, ou c'était le contraire. Une assistante sociale du personnel s'est vu proposer un poste d'éducateur spécialisé. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la métropole s'est créée en deux temps. Il y a eu les transferts d'emploi, la passerelle emploi, et là où il faut insister pour les Lyonnais et les citoyens de la métropole, c'est maintenant la deuxième phase de la métropole, qui est, vous le savez, la collectivité territoriale est nouvelle, elle a une clause de compétence générale, et M. Collomb est en train d'organiser son pacte de cohérence territoriale en lien avec les maires des 59 communes, qui seront uniquement consultés dans un contexte de pacte d'austérité avec 11 milliards d'économies sur les collectivités territoriales. Donc maintenant, ce qui est intéressant pour la population, c'est de suivre comment cette métropole va organiser son pacte, et notamment sur un certain nombre de compétences, dont les compétences sociales, comment va s'organiser la compétence sur le pôle personnes handicapées, personnes âgées, que vont devenir les bénéficiaires du RSA. Je crois que là, les Lyonnais, il faut qu'ils s'emparent du débat.
Oui, parce que, comme je le disais au début, ça vous concerne, vous, d'abord, parce que vous êtes dans le pot qu'on se coud, mais ça va nous concerner bientôt tous brutalement, parce que tout est en train de changer. Là, depuis janvier, alors, il y avait eu une grève au mois de novembre, il y a eu une mobilisation en mars. Est-ce qu'il y a des avancées maintenant que vous avez les deux pieds dedans, ou enfin, en tout cas, presque depuis le mois de janvier? Là, aujourd'hui, vous étiez aussi mobilisé. C'est rude, ça
aucune
avance
avancée.
C'est dire quoi que
Gérard Collomb refuse.
Alors nous, il faut savoir que dans cette émission, on l'appelle l'empereur, hein, parce que voilà, il veut être à la tête et tout chapeauter. Il est assez insultant avec les travailleurs de la métropole. Hein. Moi, quand je le lis dans la presse, quand je lis les transcriptions de ses déclarations, il est assez, oui. Il est insultant. Pourtant, il y a l'air d'avoir des gens qui ont l'air d'avoir envie de faire avancer un peu les choses dans d'autres côtés. Comment vous êtes dans la lutte, là, pour arriver à continuer à vous battre comment vous voyez un petit peu des avancées, là?
Alors nous, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un syndicat qui travaille très en proximité avec les agents et qu'on préfère passer du temps avec les agents sur le terrain qu'en groupe de travail institutionnel. Et là, nous, on pense que dans les années à venir, il faut qu'on travaille en lien, les associations citoyennes, les élus politiques, pour ceux qui ont envie de travailler avec nous. Et on est sur des propositions alternatives pour avoir une métropole qui soit proche des citoyens et qui, au niveau du projet politique, puisse avoir une attention particulière sur les prochaines années. Donc on ne désespère pas, on travaille des projets alternatifs avec les autres syndicats CGT des collectivités territoriales. On est un syndicat positif, plein de peps, et on se rend dans la lutte avec les agents dans les mois à venir.
Il y a d'autres mouvements qui sont prévus dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent.
On avance en marchant, on construit des luttes au fur et à mesure qu'on arrive à les amener. Après, face à quelqu'un comme Gérard Collomb, il faut être extrêmement stratégique. Donc, parfois, on lui agite un chiffon rouge devant le nez, et puis on travaille autrement. Voilà. Donc, il faut être stratégique. Il y a des luttes les plus efficaces, c'est pas les luttes les plus visibles.
Oui, on entend bien, surtout à la métropole, parce que moi je pense aussi qu'il est assez insultant, parce que il sait bien que effectivement il y a du syndicalisme aussi à la métropole, et qu'il y a toujours fait face hein, à la ville de Lyon.
Si on a quand même des collègues qui sont en lutte là, c'est les voies rapides, les VDR sur le boulevard périphérique.
Donc oui, de toute façon les mouvements, j'ai l'impression que ça a jamais vraiment cessé, hein, qu'il y a toujours eu des gens qui étaient dans certains services en lutte. C'est bien le principe aujourd'hui du management de Gérard qui fait que depuis quand même quelques années les mouvements n'ont jamais cessé à la ville de Lyon finalement. Alors certes, comme vous dites, hein, y a des mouvements très visibles et puis il y en a d'autres qui le sont moins. Mais on sait que ça bataille sec. Là aujourd'hui, l'urgence c'est quoi? C'est d'arriver à faire que tout le monde ait les mêmes principes d'embauche au sein de la métropole ou pas? Parce que c'est l'impression que c'est aussi un point, c'est qu'il y a de poids des mesures sur les travailleurs à la métropole.
C'est déjà la publication des postes vacants, parce qu'on en a énormément. Ensuite, la rémunération, effectivement, là, au jour d'aujourd'hui, il existe trois rémunérations différentes, puisqu'il y a les anciens du Grand Lyon qui ont conservé leur régime indemnitaire. Donc nous qui sommes arrivés donc du département avec des grosses différences de salaire. Et puis donc le nouveau régime métropolitain qui a induit donc un nouveau régime indemnitaire.
On imagine que c'est vers celui-là que Gérard veut aller.
Et parce que du coup, il y a des pertes au niveau salaire, des pertes au niveau vacances peut-être.
Au niveau pouvoir d'achat. On peut pas dire qu'on a perdu du salaire parce que le salaire des fonctionnaires est calculé nationalement. Par contre, c'est sur la rémunération et les acquis collectifs qu'on a le plus perdu. Puisque nous avons perdu notre comité d'action sociale et culturelle, qui avait une approche extrêmement différente de celle de l'ex-Grand Lyon. On a perdu tout ce qui constituait l'accès à la culture, ce qui est quand même quelque chose d'important.
On a perdu des tickets resto, puisque au département on en avait 21, c'était lycée. C'est peut-être, on nous dit que c'était pas légal, mais bon, à la fois on était quand même une collectivité territoriale. On en avait donc 19 par mois sur les 12 mois. Là maintenant, c'est par jour vraiment réellement travaillé. Si on pose une demi-journée, on n'a plus de tickets resto. Si on fait une grève par exemple de 11h à midi, ils l'enlèvent. Voilà.
Si on pose deux demi-journées, on perd deux tickets resto.
Voilà. Deux tickets resto si on est en formation. Pour les ex du département, donc on avait 34 jours de congés annuels. on n'en a plus que 25.
Pourtant, il me semblait qu'il y avait une histoire d'indemnité, que certains se seraient un petit peu augmentés dans des élus. Oui, bien sûr,
Oui, c'était leur première décision.
Oui, on pourrait rappeler un petit peu cette affaire. Hein, quelqu'un veut rappeler
20% d'augmentation.
Première délibération du Conseil de Métropole, augmentation de la rémunération des élus politiques. Alors c'est vrai que M. Collomb a essayé d'expliquer que par rapport aux élus du département, c'était pas aussi important que ça, mais en fait il s'est un peu embrouillé dans les chiffres et effectivement ça a un coût pour les citoyens. Et puis la deuxième décision qui a été prise dans la foulée, c'est l'augmentation des impôts de 5% pour tous les contribuables métropolitains.
Oui, donc voilà, on voit bien, mais c'est du Gérard, ouais. Hein, c'est tout à fait du Gérard. Mais voilà, cette histoire quand même de petite augmentation, ben on comprend, hein, franchement, la colère aussi derrière quand on enlève un petit peu des choses, qu'on déplace les gens et puis qu'on touche ben toujours à l'argent, hein, parce que c'est toujours dans le même sens.
Alors, il y a eu pas mal de mouvements de grève ces dernières années, on se rappelle des éboueurs notamment. Mm-hmm. On a l'impression que chaque fois qu'il y a une tentative de dialogue social, que Gérard Collomb, il répond jamais au dialogue social. Qu'on a en face de nous un élu pas du Parti Socialiste, enfin je sais pas si le Parti Socialiste est encore social, mais vous avez cette même impression, vous, quand vous dialoguez avec lui, que...
Ben, en fait, on dialogue pas, parce que pour nous, la définition du dialogue social, c'est d'être sur un mode concertation. Là, on peut pas parler de dialogue, on peut parler de monologue de l'exécutif, qui daigne informer les représentants du personnel, mais on n'est pas sur autre chose. Après, ce qui est encore plus vicieux, on peut dire, c'est la pseudo-concertation avec les agents dans des pseudo-groupes de travail où on emmène finalement les salariés à renoncer d'eux-mêmes ce à quoi ils tiennent le plus, c'est-à-dire leur mission de service public et leur repère professionnel. C'est-à-dire on leur dit, mais oui, mais vous n'êtes pas efficace, il faut qu'on se réorganise. En fait, ça fait 20 ans qu'on passe notre temps à nous réorganiser et depuis le temps, on devrait être au top, hein, finalement. Alors nous, on a dit que ce qui serait au top, c'est que l'exécutif politique métropolitain se réorganise et qu'il y ait un audit, mais fait par les agents. Ce qui serait intéressant quand même au niveau dynamique.
Mais ils ne veulent pas.
On va peut-être...
On laisse le mystère.
Oui, on va laisser le mystère planer.
Ouais.
Une dernière remarque.
Tout est en totale opacité. Même les élus politiques, quoi, à part la chasse gardée de Gérard Collomb.
Ouais, mais voilà, c'est. Enfin, moi, je pense que vous êtes le symbole de toute sa politique depuis qu'il est maire de Lyon.
Voire maire de Vaise.
Ouais, c'est vrai. Voilà, mais là, il a maintenant l'ampleur pour mettre ses projets vraiment sur la table, hein, et puis on va vraiment s'en prendre plein la gueule, si vous me permettez l'expression. Vous en prenez plein la gueule, mais nous, habitants de la métropole, c'est pas gagné. On verra les prochaines élections, je pense qu'on va rigoler aussi de tout ça, comment ça va se passer. Il va falloir aussi apprendre ces nouveaux systèmes, se plonger un peu dedans, pour voir un petit peu politiquement ce que ces modifications vont s'y amener dans le paysage local.
Je pense que c'est la suppression aussi de toutes les aides extra-légales, puisqu'on va fusionner avec les CCAS, les antennes de solidarité. Donc, tout ce que les petits Lyonnais avaient comme, entre guillemets, avantage, ce sera fini.
Non, mais c'est une ville pour les touristes et plus une ville pour nous.
Disons que la métropole, c'est un feuilleton à épisode et qu'on est prêt à l'écrire avec vous et qu'on informera les citoyens au fur et à mesure. Et vous dire aussi que... La lutte est toujours à écrire et qu'on est persuadé que sur la durée, avec la construction, on y arrivera.
Ouais. Et ben nous, on est d'accord. On vous accueillera dans quelques mois pour savoir la suite, bien volontiers.
Merci d'être intervenu.
Merci à vous.
Je continue.
Donc. Oui, on va laisser Laurent poursuivre tout de suite avec l'actualité israélo-palestinienne.
Voilà, je poursuis avec juste le petit mot sur la nouvelle flottille qui est mise en œuvre par différentes personnes, différents collectifs. Alors si vous vous rappelez, les flottilles, c'est des bateaux qui vont essayer de casser le blocus qui est toujours illégal, hein, de la bande de Gaza, blocus qui a été mis en place en 2007 par Israël. et qui et par l'Égypte aussi, hein, parce que l'Égypte au sud aide Israël à appauvrir, assécher, emprisonner les Gazaouis. Hein, faut savoir qu'il y a 1,8 million de Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza. Donc il y avait eu une première fautille, enfin la plus célèbre, hein, c'est celle de 2010, celle qui a été attaquée, notamment le navire turc, là, qui a été attaqué par l'armée israélienne. L'armée israélienne a assassiné 10 personnes ce jour-là, que des civils bien évidemment. Donc c'est un acte de piraterie qui a été assez peu condamné, hein, globalement par le monde occidental. Il y a eu une d'autres flottilles, enfin une autre, et on a la troisième là qui est partie déjà, qui est partie de Suède il y a quelques semaines, qui a fait des escales en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, et qui est arrivée en Grèce. Donc, dont le but est, au moins symboliquement, d'aller ravitailler la bande de Gaza. Alors pourquoi c'est symbolique ? Parce qu'il y a quelques bateaux, il n'y a pas suffisamment pour ravitailler toute la population, mais c'est pour casser le blocus imposé par l'État israélien. Alors, il y a en plus des personnes célèbres, hein, dans cette flottille. Alors, le premier, c'est l'ancien président tunisien, le premier président tunisien, Moncef Marzouki, le premier issu du processus démocratique du printemps arabe, qui est donc à bord d'un bateau. Il y a le fameux Bazel Gattas. Alors lui, il a beaucoup énervé. Pourquoi il a énervé Bazel Gattas ? Parce que il est israélien, mais il est arabe israélien, et en plus, il est élu à la Knesset. Donc, il a dit officiellement qu'il irait sur un bateau qui participerait au cassage du blocus. Et il y a bien évidemment tout ce que compte de députés, d'élus de droite et d'extrême droite israélienne qui l'ont rentré dans l'art en disant que s'il allait là-bas, c'est qu'il collaborait avec le Hamas. Donc c'est il collabore avec des groupes terroristes. Donc voilà, il a plus rien à faire en Israël. Enfin bon, bref, il a eu droit à toutes les insultes possibles. Pourtant, on a l'impression qu'il fait juste son devoir d'élu politique en disant qu'il soutient la cause de véhiculée par la flottille, hein, qui amène pas de désarmes, on le rappelle, qui amène plein d'autres choses pour pouvoir donner un peu d'espoir au moins aux Gazaouis. Donc voilà, les bateaux sont partis. On vous donnera les infos dans quelques jours. Il y a à peu près 70 personnes de plus de 20 pays, hein, dans cette flottille, avec voilà, plein de participation, des médias qui vont la suivre, surtout après ce qui s'était passé à celle de 2010, et on verra s'ils arrivent à franchir le blocus, s'ils ne se font pas attaquer dans les mers, dans les eaux territoriales gazaouis par l'armée israélienne.
Alors maintenant, on va parler d'une autre guerre, on parlait de guerre du capitalisme, et en particulier dans les télécoms. Alors, vous avez donc entendu l'affaire économique de la semaine. C'est le groupe Altice, donc Numéricable et SFR, qui a fait une proposition de négociation pour un rachat à Bouygues Télécom. Et mardi, patatras, voilà-t-il pas que le groupe Bouygues Télécom décide de ne pas donner suite à l'entrée en négociation avec Altice. Donc, ça s'arrête là. Alors, c'est un peu un petit revers, hein, pour M. Drahi. Il avait réussi quand même à faire une belle proposition, hein, 10 milliards d'euros. Hein, quand même, ça se refuse. Eh bien oui, ça se refuse. Alors, il faut savoir que dès mercredi, ben, la bourse, elle a réagi bizarrement, puisque pouf, ça a tout dégringolé. Hein. Par exemple, Numéricable SFR a perdu 9,25%. Hein, voilà, Altice, pareil, en recul. Orange, pareil. Bouygues, pareil. Free, pareil. C'est-à-dire que tout le secteur s'est un peu cassé la gueule. Bon, ça dure pas, ce genre de choses, mais voilà, ça a eu son petit effet toujours rigolo pour nous. Alors, pourquoi ils ont refusé, hein, dans le groupe Bouygues ? Alors, ils ont tout de suite fait un communiqué de presse, il est sorti très très rapidement, lors du conseil d'administration. Donc, ils expliquent qu'en fait, il y a un problème de concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas sûrs que Altice va avoir le droit de laisser faire cet achat. Enfin, que Altice ait le droit de faire cet achat, excusez-moi, que le gouvernement laisse faire, qu'il n'y ait pas de problème. Ils pensent aussi, le conseil d'administration, que le marché des télécoms est à l'aube d'une nouvelle ère de croissance portée par le développement exponentiel des usages numériques. Bon, il faut savoir que pourtant, la rumeur disait que M. Bouygues voulait se débarrasser de Bouygues Télécom. Bon, apparemment, derrière, il y a un peu des affaires aussi de personnes, hein, on va y revenir. Mais là, le communiqué nous explique qu'en fait, le marché, il est vachement bien, donc il faut poursuivre. Et puis, un des troisièmes arguments qui est donné, c'est qu'il y a des risques pour l'emploi. Alors on aime bien quand les patrons du groupe Bouygues nous expliquent qu'il y a des risques pour l'emploi. Ils sont revenus plusieurs fois dessus. Alors, dans les faits, pour l'instant, ça bouge pas trop. On va voir. Est-ce que Altice va proposer une autre offre ? Toujours est-il que Monsieur Bouygues Martin, de son prénom, a donné une interview au Figaro. Il était pas content, Martin. Non, il n'était pas content. Il s'est senti un peu insulté. C'est pour ça que je vous dis, c'est aussi une affaire de personne. Donc, le Figaro lui demande, mais enfin, vous avez refusé. Martin répond que, en fait, vous savez, une entreprise n'est pas une marchandise comme une autre. Et dans la vie, tout n'est pas à vendre. Pas content, Martin. Et le Figaro lui demande, ce refus n'est-il pas une réaction d'orgueil de votre part? Quand je vous disais qu'il y a comme des histoires de personnes, il n'y a pas que moi qui vois un peu ça. Alors, il dit que non. Il nous explique, pour paraphraser le général de Gaulle, ce n'est pas à 63 ans que je vais me laisser emporté par mon ego. Ah, il nous fait bien rire, Martin. Donc, voilà, il y a du mouvement, il y a évidemment aussi un petit peu de propagande. J'ai trouvé ce texte qui aurait été signé par les 8817 collaborateurs de Bouygues Télécom qui remercient leurs clients. Je ne sais pas si ce texte est véridique ou pas, je n'ai pas réussi à vraiment m'assurer de ça. Il aurait été envoyé ce message à tous les clients Bouygues Télécom et donc on aurait 8817 collaborateurs de Bouygues Télécom qui serait hyper, hyper heureux et qui voudrait donc remercier tous les clients. Voilà, donc je souhaite que ce document ne soit pas tout à fait vrai. Dans les faits, qu'est-ce que ça peut changer si jamais il y avait cette fusion pour vous, les consommateurs? Est-ce que ça peut arrêter cette guerre des prix depuis qu'il y a quatre opérateurs? Bah, c'est sûr que, étant donné que Numéricable et SFR a une box plus élevée que Bouygues, puisque c'est Bouygues Télécom hein, qui a lancé une guerre sur les box, une guerre des prix, on peut penser que non, les prix vont pas continuer à baisser hein, s'ils rachètent Altice, Bouygues Télécom. Par contre, sur les mobiles, là, c'était Free qui jouait. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Free, Orange, ils causent pas trop.
Enfin, si, ils sont a priori plutôt contents qu'il y ait ce rachat.
Tout
ça
à fait.
Un concurrent de moins.
Ils se plaignent pas trop, c'est voilà. Ce que je voulais dire. En fait, ça en fait un de moins. On reviendrait à ce qu'on connaissait il n'y a pas si longtemps. Avec l'arrivée de Free, ça avait soi-disant modifié la concurrence. Alors, c'est vrai que ça avait fait baisser les prix. Mais bon, voilà, c'est une affaire à suivre parce que, quand même, dans les télécoms, c'est un peu Dallas.
Ouais, en plus, ils sont tous pour la concurrence, mais pas quand ça concerne leur secteur économique. Bizarrement, ces gens, ces patrons de droite, ils sont bizarres. On va rester dans le capitalisme et parler du capitalisme qui tue, puisque nous allons parler du laboratoire Servier. On rappelle que son célèbre Mediator, un médicament qui était utilisé pour des mauvaises choses, pas ce qui était prévu, a effectivement rendu malade, voire tué des personnes en France. Alors ça, c'était l'ancienne histoire, je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé plusieurs fois il y a longtemps. Mais ça continue. Alors ça continue pourquoi ? Parce que depuis 2011, il y a des procédures de demande d'indemnisation des victimes du Mediator, des victimes qui sont encore vivantes mais qui ont des séquelles. Et bah, c'est compliqué. Beaucoup plus compliqué que ce qu'ils avaient prévu. Alors, il faut savoir qu'il y a eu 8787 demandes qui ont été reçues. A priori, le collège d'experts, je vais vous parler de l'ONIAM, qui est l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, qui gère tout ça, a émis 4389 avis sur ces 8787 demandes et 1388 sont positifs et demandent donc à l'industriel Servier de payer des dommages et intérêts. Et là, Servier a 3 mois pour faire des propositions. Et ben, Servier, pour l'instant, n'a pas fait les propositions. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Pour l'instant, l'ONIAM va mettre de l'argent, va payer à la place du laboratoire. C'est ça le capitalisme. C'est que vous faites des produits qui tuent, qui détruisent, qui abîment. Et quand on vous demande de payer, vous payez pas parce que vous espérez qu'il y a un organisme, parce que vous savez qu'il y a un organisme qui paye. Alors, le laboratoire Servier a dit que non, ils étaient prêts à payer, pas de souci, mais ils l'ont pas fait. Donc le principe de l'ONIAM, c'est qu'il se substitue au laboratoire Servier dans ce cas-là, et après bien sûr il demande le paiement au laboratoire. Je sais pas si le paiement arrive un jour, hein. Mais voilà, c'est quand même juste un comportement inadmissible de la part de ce labo hein, qui a mis un médicament dangereux sciemment et qui a été condamné pour ça, on le rappelle. et qui assume pas ce qu'il a fait jusqu'au bout. Vous allez me dire, c'est normal, c'est du capitalisme, le but c'est de faire de l'argent et pas de payer quand on tue ou quand on blesse ou qu'on rend malade les clients. Ouais, on va dire ça comme ça.
Alors on va continuer à parler un petit peu de capitalisme et d'entreprise, on va parler d'Uber. Hein, Uber aussi, vous avez entendu, ou lu, ou vu, c'est dans l'actualité. Ça ne s'améliore pas, hein, les relations entre les VTC et les taxis. Non, ça s'est même un peu dégradé, on peut dire, ces derniers jours. Il y a eu quelques agressions, quelques bagarres, quelques règlements de compte. Quelques affaires, quand même.
Alors, c'est plutôt les VTC qui en prennent plein la gueule, quand même.
Voilà. Alors, aujourd'hui, il y avait une manifestation...
agressée par des taxis.
A priori, ça s'est passé aussi dans l'autre sens aujourd'hui, hein, histoire que tout le monde se mette bien sur la gueule. Il y a eu des interpellations, quelques trucs de cassés, enfin bon, du mouvement en particulier à Paris. Alors... tout ça, ça ne cesse de s'accélérer. Pourtant, Uber Pop est mis en accusation en France, est interdit. Sur Lyon, pourtant, les voitures Uber continuent à circuler, tout comme dans d'autres villes jusqu'à présent. Bon, alors, c'est des épisodes qui ne cessent de se cumuler, mais ici, comme ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a d'autres villes, hein, où les gens sont venus aux mains. Ce qu'on regrettera peut-être, nous, dans cette émission, c'est que les taxis s'en prennent pas plutôt à l'outil de travail des chauffeurs d'Uber, alors, déjà, plutôt que de se taper sur la gueule.
Il y a une énorme confusion qui est entretenue par les médias, exprès. C'est que quand ils interviewent des taxis, on sait jamais si c'est un patron taxi ou si c'est un salarié taxi, parce que la problématique est complètement différente quand on est patron de son propre taxi ou patron d'une entreprise de taxi que quand on est salarié, c'est-à-dire exploité, qu'on risque de perdre son travail, que les enjeux sont pas les mêmes. Donc ça, il y a une belle confusion qui est entretenue sciemment, je pense, par les médias pour nous faire croire que les taxis, c'est une seule corporation et pas du tout. Hein. Il y a des chauffeurs, il y a des patrons chauffeurs et voilà. Alors, il y a la problématique de l'ouverture à la concurrence, on ne va pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Ce qu'on notera, c'est les réactions qui ne sont pas toujours terribles. Tu me montrais tout à l'heure, il y en a qui disaient ils attaquent Uber parce qu'Uber, c'est un groupe américain. Et donc, il y a une espèce de... voilà, donc des taxis plus proches des idées du Front National qu'autre chose. Mais si jamais il y a des applications franco-françaises, on va dire, pour les nationalistes, là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils acceptent parce que c'est français. Non, ils se servent d'excuses nationalistes, racistes, tout ce que vous voulez, pour rejeter cette entreprise Uber parce qu'elle n'est pas française. Mais quand il y a les entreprises françaises de VTC qui font la même chose, ils sont pas d'accord. Donc il faut qu'ils apprennent à utiliser les bons arguments. Et leurs arguments, c'est de dire que il y a un souci en France avec le problème du taxi, parce qu'ils sont obligés d'acheter, ce qui est pas logique, hein, d'ailleurs, le droit d'être taxi, que ça leur coûte très cher, qu'ils s'endettent. Mais alors peut-être que le système est à remettre à plat, hein, il y en a qui pensent que l'État pourrait racheter toutes ces plaques de taxi. Enfin bref, en tout cas, on voit pas, même les syndicats, même la CGT, des gens comme ça, avoir un discours clair dessus. Dire, voilà, nous on défend les salariés, pas les patrons, nous on veut ça, on veut pas ça. Et il y a une espèce de confusion qui est entretenue par tout le monde. Le but étant que rien ne change finalement et que pour prendre le taxi, bah, il faut toujours être riche. Hein. Grosso modo, c'est ça aussi qui concerne la majorité du citoyen français. C'est quand on prend un taxi, c'est qu'on n'a pas le choix parce que ça coûte hyper cher. Ça coûte hyper cher pour différentes raisons, notamment à cause de ce qu'ils seront obligés d'acheter pour avoir le droit d'être taxi. Et qu'il y aura peut-être des choses à remettre en cause un jour pour que on puisse se déplacer en taxi sans être milliardaire ou millionnaire ou au moins riche.
Une délégation qui devait être reçue à 18h30 par Monsieur Cazeneuve. À côté de ça, les chauffeurs Uber, essayent de se défendre. On les a vus et lus pas mal dans la presse, hein, qui pas mal d'interviews. Alors c'est plus de l'ordre du témoignage, évidemment, parce que ils sont un peu seuls, un peu isolés. Il y a des mouvements où ils essayent un petit peu de se regrouper maintenant, un petit peu comme dans d'autres pays, vous en avez parlé. Mais voilà, ils sont un petit peu sur la défensive aussi. On rappelle que c'est un système un peu pourri, hein, parce que pour gagner beaucoup d'argent, il faut faire beaucoup d'heures, il faut beaucoup travailler. C'est un système qui amène une précarisation. C'est aussi que ceux et celles qui sont le plus en recherche d'emploi risquent le plus d'aller travailler la nuit, par exemple, parce que ben oui, c'est peut-être là où il y aura le moins de chauffeurs et le moins de taxis, et donc on va chercher l'argent de cette manière-là. Donc tout ça est très compliqué. C'est des nouveaux modèles économiques. Alors, on aurait pu juste rappeler, si vous aviez raté l'info, que Uber a engagé quelqu'un d'intéressant, avocat de formation, ancien de UFC Que Choisir, ancien conseiller en communication du secrétariat d'État aux transports. Il s'agit de monsieur Grégoire Kopp, qui a donc été embauché par Uber France, comme dire comme on dit, hein, toujours donc dans la communication. Alors, ce qui est très très drôle, c'est que Grégoire, ouais, je vais les appeler par leur prénom ce soir. Grégoire, avant de travailler chez Uber France, il avait beaucoup tweeté. Et beaucoup tweeté contre Uberpop, l'application, donc contre Uber.
Ils l'ont acheté, quoi.
Alors, lui, il dit qu'il assume ses tweets et que Uber France l'a recruté en connaissance de cause, mais c'est très très drôle quand même. C'est vachement bien, je trouve, de pouvoir taper sur une entreprise et puis ensuite d'y être embauché dedans. Je trouve ça vraiment très très bien. Alors, donc, moi, je vous parlais tout à l'heure de ce nouveau modèle économique. C'est à la fois du micro-travail, du travail semi amateurs, du travail occasionnel. Il y en a d'autres qui rentrent dedans aussi dans ces processus et on pourrait parler d'Amazon. Et c'est de Amazon dont je vais vous parler tout de suite. Modèle économique aussi intéressant. Amazon essaye vraiment aussi d'installer des systèmes. Alors bon, faut dire aussi que quand ces multinationales partent des États-Unis d'Amérique, déjà elles ont d'autres systèmes en place que ici sur notre territoire. Ça concerne par exemple les droits d'auteur, la manière dont les gens sont payés, les rémunérations. Et alors Amazon, ils sont vachement drôles quand même avec les auteurs. À partir du 1er juillet, les auteurs auto-édités aux États-Unis qui sont présents sur Kindle Unlimited, illimité pour ceux et celles qui sont comme moi pas très doués en anglais. Kindle Unlimited, c'est le service de livres numériques à volonté. Hein, vous payez un forfait et puis ensuite vous pouvez télécharger ce que vous voulez. À partir du 1er juillet, les auteurs auto-édités seront payés en fonction des pages lues par les lecteurs.
Ah, c'est pas de bol si quelqu'un commence ton livre et il finit pas.
Voilà. Et puis alors surtout, c'est que même si tu lis un livre, tu le finis et tu le relis, l'auteur sera pas mieux rémunéré. C'est-à-dire que c'est sur la première lecture, point final. Alors il faut savoir que jusqu'à présent, Amazon payait les auteurs si le lecteur avait lu au moins 10% de l'ouvrage. Il faut savoir qu'il y a une espèce de cagnotte qu'Amazon met de côté, qui est différente chaque mois, qu'ensuite les auteurs auto-édités se partagent. C'est un système vraiment particulier. Et donc, Amazon nous explique qu'ils ont modifié ce système de rétribution à la demande des auteurs, puisque certains et certaines se seraient plaints que les auteurs de nouvelles étaient payés comme les auteurs de romans, c'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient que ce soit vraiment à la page maintenant. C'est exactement ce qui se passe. Alors, il paraît que le système précédent encourageait les auteurs de romans, en particulier s'ils étaient un peu volumineux, à les découper en plusieurs morceaux. Hein, tome 1, tome 2, tome 3, tome 26, tome 27, tout ça. Alors, bon, maintenant, il y en a d'autres qui pointent un petit peu quand même des effets sur ça. C'est que les auteurs pourraient ralentir un petit peu leur créativité, vous savez, et normaliser leur production. Tout ça pour avoir une meilleure rémunération, puisque peut-être qu'il va falloir de l'aventure dedans. Vous voyez, pour que on aille au bout. Alors vous allez me dire, oui, il y a toujours des auteurs qui vont écrire des livres très sérieusement. Oui, mais ils seront peut-être pas
chez Amazon. Enfin, alors c'est pas parce que
ils vont pas en bouffer.
Voilà, il y a quelques contre-exemples de gens qui ont gagné pas mal d'argent, mais la majorité gagne rien du tout. Ce genre de système est alors on va pas défendre les maisons d'édition parce que c'est pas un système qui est très présentable non plus sur plein de côtés, mais n'empêche que les auteurs touchent en proportion plus dans une maison d'édition que avec Amazon, qui reste une arnaque. D'ailleurs, le modèle économique d'Amazon marche tellement bien qu'ils font jamais de bénéfice. Ils sont toujours en perte.
Ah, ouais, mais parce que Amazon, en même temps, ils inventent rien. On rappellera que il y a eu des époques en France où les auteurs étaient payés à la ligne, donc ils écrivaient beaucoup. On rappellera aussi la situation des auteurs de comics qui se sont fait largement exploiter aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà, c'est des systèmes qui ont toujours été présents. Dans certains pays, comme en France, on avait réussi un petit peu à assurer quelques droits aux auteurs, quelques possibilités quand même d'en vivre. Alors je parle pas des gens qui écrivent des best-sellers, mais pour d'autres on sait que c'est toujours difficile, mais en tout cas d'avoir un accompagnement aussi par la maison d'édition, parce que si parfois certaines s'en mettent plein les poches, d'autres être éditeur, c'est un vrai boulot, c'est pas juste vendre un bouquin, c'est aussi accompagner un auteur, ce qu'Amazon ne fait pas. Donc pourquoi pas écrire ? C'est vrai que après tout, on n'a pas besoin d'être un expert. Le problème, c'est que Amazon profite simplement du fait que des gens, bah, grâce à Internet, peuvent diffuser leurs œuvres. Voilà, il faut arrêter de rêver à ce micro-travail, à ces micro-activités. Il faut le faire parce qu'on a envie de le faire et certainement pas parce qu'on espère vivre grâce à Amazon. Voilà, mais après, le profit appelle le profit aussi.
Alors, on va changer de sujet, on va revenir un petit peu en France avec la nouvelle de la semaine. Moi, j'ai trouvé la plus importante de l'actualité, c'est Maud Fontenoy. Alors, Maud Fontenoy, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une fille qui faisait de la navigation sur des petits bateaux de milliardaires. Hein. Vous savez, elle est navigatrice professionnelle, donc des trucs de riches, avec plein de pubs, voilà. Donc, logiquement, en tant que sportive qui véhicule des idées libérales, elle est rentrée dans un parti libéral bien à droite, c'est-à-dire les Républicains ex-UMP. Donc, elle a été bombardée, déléguée à l'environnement du parti. On se dit, au départ, pourquoi pas ? Parce que elle connaît la mer, elle est peut-être sensibilisée à la pollution, à tout ça. On en connaît d'autres, des navigateurs qui ont des discours très intéressants. Beaucoup, voilà. Bon, j'ai vendu la mèche, c'est l'inverse, elle. Alors, elle a écrit un livre qui s'appelle « Les raisons d'y croire ». Alors, elle a beau aimer les océans, elle fait un discours anti-écologique assez incroyable, hein, puisque elle reprend un petit peu tout ce que disait son maître absolu à penser, qui semble être Nicolas Sarkozy, avec cette phrase qu'il avait dit, qui est célèbre, qui disait « l'écologie, ça commence à suffire ». Donc c'est un peu le propos qu'elle va tenir tout au long de ce livre, tout en étant bombardée déléguée à l'environnement du parti Les Républicains. Elle a un discours anti-écologique. Alors, et elle est très très forte parce que elle est navigatrice, mais en plus elle est scientifique, elle doit avoir plusieurs prix Nobel, puisqu'elle est capable de juger les travaux scientifiques des autres. Moi, je suis assez estomaqué de tout ça. Alors, et elle est très peu contredite d'ailleurs par les médias là où elle est invitée. Pourtant, c'est entièrement du mensonge que tout ce qu'elle sort, bien évidemment. Alors, par exemple, donc elle défend le Roundup. Le Roundup, c'est donc le glyphosate, hein, le glyphosate, le principe actif du Roundup, qui est déclaré dangereux à la santé, cancérigène probable ou possible, je ne sais plus d'ailleurs, par le CIRC, le Centre international sur le cancer. Et elle dit que, bon, non, ils n'ont aucune preuve de dire ça, qu'il faudrait qu'il y ait de nouvelles études pour réfléchir. C'est-à-dire que elle, en tant que navigatrice qui nage dans la mer, elle est plus compétente que les dizaines de scientifiques du CIRC qui ont bossé dessus. Bravo. Moi, je dis que Sarkozy, il a embauché quelqu'un de super, super bon. Alors après, sur le reste, c'est un peu pareil. Elle a tout un discours pro-gaz de schiste, parce que le gaz de schiste, c'est la vie. Hein. Alors, elle dit qu'il n'y a aucune preuve comme quoi il y a des pollutions. Alors pourtant, si vous allez aux États-Unis d'Amérique et où vous regardez les documentaires, il y a moult exemples de pollution. Hein. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, ils ont retrouvé à des très très loin des zones d'extraction des polluants qui avaient été injectés dans le sol pour faire sortir ces gaz de schiste ou ces pétroles de schiste. Donc là, elle réfute grosso modo la littérature scientifique. Elle dit même que c'est bien, pourtant c'est du gaz, donc ça va brûler, donc ça augmente le dérèglement climatique. Donc elle dit qu'elle est contre le dérèglement climatique, à l'inverse du discours de 100% des scientifiques qui travaillent sur le dérèglement climatique. Enfin voilà, elle y va dans tous les domaines, elle est pro-OGM aussi. Alors bizarrement, la droite a eu quelquefois des responsables écolos un peu plus écolos qu'elle. Hein, on se rappelle, il y a quelques années, d'une ministre de droite qui avait fait quelques petites actions pour l'écologie. Elle, ça semble très très mal parti. Donc, voilà, elle trouve même que dans les projets à Paris, il y aurait trop de place donnée aux vélos. Si vous allez à Paris, vous allez compter le nombre de voitures, elle compter le nombre de vélos, vous verrez s'il y a trop de place pour le nombre de vélos. Donc voilà, une navigatrice, Maud Fontenoy, de droite, anti-écologique, qui défend la destruction de la planète, qui défend le droit de dérégler le climat, qui défend le droit de mettre des produits chimiques toxiques, cancérigènes, comme le Roundup, dans la planète. On rappellera quand même pour sa culture, parce qu'elle n'a pas l'air d'être très douée, que la Mutuelle Agricole a reconnu certains de ces produits cancérigènes. C'est en dehors du CIRC, et il y a des gens qui sont vraiment malades de ces produits, donc ça n'est pas anodin, vraisemblablement. Pour elle, c'est faux, elle semble plus proche de la religion, de la religiosité, on lui dit que c'est ça, donc elle y croit, elle s'agenouille devant son modèle Nicolas Sarkozy. Elle n'a aucune culture scientifique, c'est très très triste de voir ce qui peut arriver à cette ancienne sportive qui vraisemblablement n'avait pas les connaissances pour être déléguée à l'environnement du parti Les Républicains. Ça, vous y attendiez, mais voilà, je voulais raconter un peu tout ce qui avait été, toutes les bêtises qu'elle avait pu dire depuis 3-4 jours.
Alors, on va parler de toute autre chose maintenant. Un objet qui a été dans l'actualité depuis la semaine dernière, c'est ce drapeau confédéré. Alors, je vous rappelle, c'est le drapeau qui représente les États esclavagistes qui ont fait sécession en 1861.
C'est, vous savez, le drapeau qu'il y avait sur la voiture des cow-boys dans la série des années 80, là. Ouais. Sur le capot de la, sur le toit de la voiture, là.
Et s'il est dans l'actualité, c'est parce que Dylan Roof a massacré 9 personnes dans une église à Charleston, en Caroline du Sud. Pourquoi? Ben, parce qu'il était raciste et que ces personnes étaient noires et donc il avait cet écusson sur son blouson. Il en était très fier et ce drapeau depuis fait beaucoup parler de lui. Et même dans l'économie, puisque plusieurs supermarchés aux États-Unis d'Amérique ont décidé de retirer les drapeaux confédérés de la vente. Eh ben oui, parce qu'ils sont en vente à Walmart. Jusqu'à ouais. présent, on trouvait donc chez Sears et Kmart, que nous on connaît pas ici, mais Walmart, hein, vous connaissez le nom. Eh ben oui, c'était en vente dans les boutiques et puis en ligne aussi, tranquillement, hein, sans problème. Hein, c'est ce qu'on appelle du profit raciste, tout simplement. eBay, Amazon, ben ils renoncent également.
C'est bien parce que ça fait quand même des années qu'il y a déjà des gens, des militants aux États-Unis qui demandent à ce qu'il y ait au moins une restriction de l'utilisation de ce drapeau. Alors, historiquement, ça représente cet État raciste, mais ça représente tous les États du Sud, en dehors du racisme. Alors, c'est vrai qu'ils ont été racistes, ils ont mis en place la ségrégation, tout ça, mais c'est difficile, ça a été pour l'instant impossible de faire accepter par ces gens que ce drapeau représente simplement le racisme de ces États-là et qu'il faut utiliser autre chose, un autre symbole pour représenter les États du Sud. Hein, on le voit, mais vous regardez les disques de rock sudiste, vous avez souvent le drapeau qui apparaît quelque part. Il y a vraiment un truc important autour de ce drapeau, et pourtant, c'est comme si aujourd'hui, il y a des gens qui revendiquaient le droit d'avoir la croix gammée sur eux en permanence, quoi. C'est vraiment un symbole raciste fort. Et qui est, tous les 5-6 ans, il y a des gens aux États-Unis qui essayent de le faire, qu'ils ne soient pas sur les mairies, pas sur les... voilà. Et ça ne marche pas. Alors peut-être que celle-là, peut-être que cette fois, ça sera la bonne. Et que ce symbole va tomber et qu'ils trouveront autre chose pour représenter leurs États, quelque chose de non raciste.
Oui, c'est Nikki Haley, qui est gouverneur de Caroline du Sud, qui a demandé lundi le retrait du drapeau qui flotte devant le siège du gouvernement de l'État depuis les années 60. Hein. Donc c'est finalement assez récent, il faut s'en rendre compte. Les fabricants aussi de drapeaux aux États-Unis ont arrêté de produire ce drapeau confédéré. La grande question, c'est pour combien de temps tout ça va s'arrêter? C'est-à-dire que Walmart, ils vont mettre combien de temps avant de recommencer à le vendre? Est-ce que vraiment, ça va stopper la marchandisation du racisme aux États-Unis d'Amérique avec ce drapeau? Alors, c'est pas que le drapeau, hein, c'est tous les objets qui avaient ce symbole. Hein, donc, c'est les tasses, ça peut être un t-shirt, voilà. Mais on se demande combien de temps ça va durer, tout ça. Est-ce que c'est vraiment définitif? Ou est-ce que dans 4 mois, quand tout ça se sera un petit peu tassé, et ben, on retrouvera dans la boutique en ligne de Walmart ce drapeau confédéré? On verra bien. Moi, j'ai peur qu'ils reviennent quand même.
Ouais, parce que c'est un combat qui date et qui est jamais gagné encore, qui a jamais été gagné aux États-Unis, enfin d'Amérique, dans les États du Sud, hein, parce que dans les États du Nord, il n'y a pas le souci, bien évidemment, puisqu'ils ont rejeté toutes ces idées racistes de cette époque, de la guerre de sécession. Alors, on va changer de sujet, on va revenir sur des idées racistes. Mais en Europe cette fois, avec le problème de l'asile. Alors vous savez que aujourd'hui ou pas, le président du Conseil européen qui s'appelle Donald Tusk présidait une sorte de réunion là pour prendre une décision sur ces fameux quotas. Alors c'est les quotas de quoi? C'est pas les quotas laitiers, hein, c'est les quotas d'étrangers qui arrivent sur le sol européen. Alors c'est essentiellement ceux qui viennent de Syrie et d'Érythrée, donc qui ont le droit, qui vont avoir l'autorisation d'avoir accès au droit d'asile, et il faut se les répartir. Et actuellement, effectivement, comme ils arrivent dans le sud, c'est-à-dire en Grèce et en Italie, ces deux pays en ont marre de supporter l'arrivée de ces réfugiés, et ils demandent donc une répartition européenne. Et là, on a eu tous les discours racistes, et la blague, d'ailleurs, blague raciste de Nicolas Sarkozy la semaine dernière sur ce sujet-là, hein, qui prend l'exemple d'une inondation chez lui. Qu'est-ce qu'on fait ? On met 10% dans la cuisine, 10% dans la chambre, voilà. Donc pour lui, ces pauvres migrants sont juste de l'inondation, hein, même pas des êtres humains. Donc c'est une vraie blague raciste, méchante, agressive, telle que Sarkozy est capable d'en faire. Et aujourd'hui, il y avait encore une réunion pour essayer de valider ces quotas, et une fois de plus, ça a échoué. Et pourtant, c'est rien du tout. Quand on y regarde sur quoi ça a échoué, il y a plein de pays qui ont dit non. Il y a 40 000 migrants demandeurs d'asile originaires de Syrie et d'Érythrée qui sont concernés par ces quotas. 40 000 qu'il faut répartir en différents pays. On est un certain nombre de pays, ça veut dire quelques milliers de migrants de plus dans ces pays. Qu'est-ce que va changer 5 ou 10 000 migrants de plus en France, en Italie, pas en Italie parce que du coup ils les ont déjà, en Espagne, en Suède, en Allemagne, etc. C'est vraiment du combat idéologique. C'est pas un combat sur ces êtres humains parce qu'ils en ont rien à foutre pour les politiques qui décident, c'est pas des êtres humains. C'est un combat de chiffres, c'est un combat politique en disant on veut assumer notre racisme, on veut pas ces émigrés, on veut qu'ils restent en Italie et en Grèce, deux pays qui ont quand même des difficultés économiques nettement plus importantes que la France ou l'Allemagne ou d'autres pays du nord de l'Europe, hein, en plus. Donc on leur ajoute des problèmes supplémentaires. Et voilà, la réunion aujourd'hui a échoué. L'idée au départ, hein, c'était que le mécanisme soit plutôt basé sur le volontariat. Il y avait l'idée, voilà, on répartit, ça donnerait tant pour chiffres, est-ce que vous êtes d'accord ? Le problème, c'est ce qu'il a dit lui-même, si tout le monde joue pas le jeu, ça marche pas le volontariat. En fait, c'était pas du volontariat, il faut que tout le monde accepte d'en prendre une partie. Et ça a échoué aujourd'hui, donc voilà, ça sera sûrement renégocié plus tard. En attendant, ces pauvres immigrés campent comme ils peuvent en Italie et en Grèce. C'est encore à moi ? Ah oui ! Ah, alors, j'ai une nouvelle. Si jamais votre centrale nucléaire fuyez. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui s'est passé en Gironde. En Gironde, il y a une centrale tristement célèbre, celle du Blayais. Vous savez, c'est la centrale qui a failli exploser en 1999 lors de la tempête. On a failli avoir notre Fukushima. Hein, ça s'est joué à peu de choses. D'ailleurs, les agents des EDF qui étaient croyants priaient pour pas que ça casse. Il y avait plus que ça, puisque aucun possibilité technique d'intervention était possible. Cette centrale fait encore parler d'elle. Alors la semaine dernière, 118 personnes avaient été évacuées du bâtiment réacteur numéro 4. Et hier, nouvelle alarme, ça sonne dans la centrale. Et ça sonne pour dire, attention, excès de radioactivité. Donc là, on sort tout le monde. Donc là, c'est un peu plus de personnes, 125 hier soir. Et on les fait passer devant tout un processus médical pour vérifier quelle quantité de radioactivité ils ont pris, etc. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, ils savent pas bien d'où elle vient, cette radioactivité. Le réacteur numéro 4 est à l'arrêt, hein, puisqu'il est arrêté dans le cadre de la visite décennale. Tous les 10 ans, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, fait une visite pour valider l'autorisation de continuer de fonctionner pendant 10 ans, les 10 années suivantes. Et alors la semaine dernière, ils ont trouvé que ça venait d'une manipulation d'éléments radioactifs qui avaient refait redissiper de la radioactivité dans le réacteur et à l'arrêt. Là, on n'a pas l'information. En tout cas, ils l'auront bien dit, hein, quand ça sonne, vous partez en courant. Donc ils sont partis de la centrale. Moi, quand je serais salarié du nucléaire, j'aurais quand même pas mal peur, disons.
Allez, rapidement, pour finir, on va parler d'un roman de Philippe Deschemins, Contoyen. C'est aux éditions Cercle de la Boétie. C'est un roman dans lequel on rencontre Dimitri, qui habite une zone urbaine, la zone contoyenne, une vaste zone urbaine. Et Dimitri, comme le reste de la société, passe son temps à consommer. Tout est bien organisé dans sa société. Il faut dire qu'il y a pas de guerre, pas de misère, il n'y a pas de chômage, le travail n'existe pas, et le contoyen parfait, efficace, bien vu par les autres contoyens, est le contoyen qui dépense son budget parfaitement bien, il sait le gérer, il est maîtrisé, à la fin du mois, il a tout dépensé, ou elle a tout dépensé. C'est bien organisé, les rouages du système sont bien installés, et puis, le rouage, il grippe un peu, parce que Dimitri va rencontrer Simon, et Dimitri va découvrir la face cachée du système, qui va l'amener à découvrir de classes, de castes, de sociétés qui ne se côtoient pas, qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler l'une de l'autre.
Sauf que ben, grâce à Simon, Dimitri va ouvrir les yeux, il va ouvrir son esprit et il va tenter de détruire le monde. Voilà, c'est un roman d'anticipation, mais c'est aussi une fable. C'est très on est beaucoup dans la poésie. C'est une écriture que je trouve très visuelle. C'est-à-dire que ça ferait un très bon film. J'espère qu'Hollywood ne saura jamais que ce livre existe, mais je souhaite beaucoup de succès à Philippe Béchemin, hein, c'est pas le souci. Alors c'est intéressant parce que c'est le roman nous raconte cette société qui est basée sur la consommation. Cette consommation, elle c'est l'identité des personnes. C'est-à-dire que la consommation, vous, c'est toute votre vie. Tout ce que vous faites, ça passe par ça, il n'y a plus que ça. Et puis finalement, on n'est même pas sûr qu'il y ait vraiment une satisfaction, puisque c'est tellement normal de consommer, puis qu'il faut quand même le faire bien. Il faut être un peu responsable. Donc c'est une recherche du bonheur par la consommation, mais qui finalement n'est pas vraiment réussie. C'est une recherche de la satisfaction, de la reconnaissance des autres pour la gestion bien faite. Mais voilà, il n'y a rien de plus dans cette société. Et c'est à ce moment-là, cette rencontre qui amène Dimitri à changer. Il faut bien dire que ce système sert de profit à des quelques-uns, mais Philippe Deschemin ne nous raconte pas vraiment cette partie-là. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est ce personnage qui est un homme amoureux, qui est un homme sensible, et qui a une volonté qui est constamment ballottée. Parce qu'il a envie hein, de cette révolution, de ce changement, mais sa volonté, elle est ballottée entre sa peur de la répression, mais aussi la peur de la liberté. Il y a cette excitation de la révolution. Et puis, il y a son désir pour Héloïse. Je vous lisais, il est amoureux. Et cette volonté, elle est coincée entre l'espoir, le désespoir. Et c'est tout ce roman-là aussi dont nous raconte Philippe Deschemin. C'est-à-dire, c'est pas un roman de science-fiction, d'anticipation sur un modèle politique où il va rentrer dans des grands argumentaires. Non, il nous suit Dimitri, ce petit gars sensible, jeune, et puis son évolution. Voilà, c'est un très beau roman que moi je vous conseille. Philippe Béchemin, vous le connaissez peut-être parce qu'il est directeur de la revue L'Incontournable Magazine à Lyon. Voilà, donc c'est au Cercle de la Boétie. Il y a eu une édition augmentée avec une préface de Norman Bargeajon, je vais y arriver. Voilà, donc c'était la lecture de ce jeudi.
Et c'est marrant parce que c'est pas si réaliste que ça, cette société, parce que il y a pas très longtemps, j'ai entendu sur une radio libérale un patron qui expliquait qu'il était pour, qu'il pensait qu'à un moment, on n'allait pas pouvoir employer tout le monde et qu'il fallait donc donner de l'argent à tout le monde. Donc c'est un patron hein, qui parlait. Il parlait du revenu minimum à donner à tous les citoyens qui habitent un pays pour leur permettre de consommer, puisque le système économique ne tient que sur la consommation. Et donc lui, il prenait ce revenu universel pour que les gens continuent de consommer, pour pas que le système s'écroule, parce qu'on a besoin de beaucoup moins de gens pour travailler. Et je trouvais ça, alors c'est un discours qui était de gauche il y a quelques années, là, qui est repris en main par le patronat, hein, c'était un patron, un jeune patron. Et ce que montre ce roman, c'est ça. Du coup, je l'ai pas lu, hein, mais voilà, cette société, elle est pas si loin que nous. C'est de l'anticipation, mais c'est peut-être de l'anticipation proche, parce qu'effectivement, il y a un moment où le système ne va tenir que sur la consommation et qu'il faudra bien pousser les gens à consommer plutôt que réfléchir, s'asseoir, discuter, échanger, tout ce que vous connaissez qui sort de la consommation.
Voilà, donc là où on retrouve fortement le roman d'anticipation, c'est l'imagination de ces deux classes, de ces deux castes qui ne se connaissent pas. Une ben, qui vit juste pour se satisfaire et l'autre qui vit juste pour produire. Et en même temps, personne ne sait que l'autre existe et donc on produit pour quoi faire. C'est aussi cette question qui apparaît aussi dans ce roman. Donc voilà, je vous laisse lire Contoyen.
On va se quitter là, hein, parce qu'on a fini ce Canu Info en ce jeudi 25, t'as dit 25 juin.
Fait,
oui. Le dernier jeudi du mois de juin, si je me trompe pas. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau Canu Info de juillet. Puisqu'on sera là aussi au mois de juillet. Vous rappelez, j'ai pas fait d'agenda parce que j'ai pas trouvé grand chose si ce n'est qu'il y a les 10 ans de rébellion et donc notamment samedi ça doit commencer à 13h30 et ça dure jusqu'à tard dans la nuit et c'est j'ai perdu le nom de la place. Place Guichard, voilà, Place Guichard. Donc de 13h à 17h, il y a des tables rondes sur les médias, notamment avec un infokiosque, des tables de presse. Et puis à partir de 18h, concert, il y a de la bouffe sur place, tout ça, voilà. Place Guichard, de 13h à 22h, les 10 ans de rébellion.
On va vous laisser avec la petite cuillère et nous donc on se retrouve, comme tu le disais Laurent, la semaine prochaine pour un nouveau Canu Info, 19h-20h.
Restez à l'écoute de Radio Canu, n'hésitez pas à écouter toutes les émissions, donc la petite cuillère à l'instant, mais aussi d'autres émissions à toutes les sauces, toutes les horaires. Il y a de très bonnes émissions musicales sur Radio Canu. Je vous incite à écouter le Petit Bazar le dimanche en début d'après-midi, ou la Causerie pour parler politique le dimanche soir à 22h sur la plus rebelle des radios. Donc voilà, plein de choses sur cette magnifique radio qui n'existe que grâce à vous. On se retrouve donc la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Bye, bye.